Oui, bien le bonjour, bon matin, bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, l'édition du vendredi 6 juillet 2018. Avec moi en studio, Catherine Emmanuel Brunet qui est de bonjour. Retour avec nous. Bonjour Catherine.
Aujourd'hui, je vais vous parler de gastronomie un peu. Oui, je me lance direct dans la présentation. Parce que je suis très excitée par ça, c'est sur les viandes sauvages et pourquoi au Québec, on n'a pas nécessairement droit de vendre ou d'avoir accès à certaines viandes sauvages. On va parler de tout ça, c'est un article du Voir.
Très intéressant, moi aussi je me pose la question.
Alors on va démystifier tout ça.
Oh, merci beaucoup Catherine. Francine Forget avec nous, bonjour.
Bonjour Hélène, bonjour Catherine Emmanuel.
Oh.
Cette semaine, moi je me lance dans l'hypnose.
Oh,
oui, je vais vous parler de l'étonnant pouvoir de l'hypnose médicale. Et évidemment, il y aura un article techno sur Google qui va lancer son concierge numérique bientôt.
Bien, deux sujets fort intéressants. Alors, j'ai bien hâte au sujet de l'hypnose, ça me fascine beaucoup. À la régie, Mathieu Tessier. Bonjour, Mathieu.
Bon matin.
Merci. Et au micro, Hélène Bédard. Alors, on vous revient dans quelques secondes après cette courte pause musicale. Alors voilà, nous sommes de retour et Francine Forget va nous entretenir de...
Alors Google qui lance son concierge numérique duplex cet été. Alors on en a parlé dans la presse plus du 30 juin 2018. C'est Ryan Nakashima qui est l'auteur de l'article. Lorsque Google a présenté pour la première fois en mai duplex son concierge numérique capable de faire des appels téléphoniques, certains ont jugé qu'il semblait trop humain. D'autres se sont inquiétés du fait qu'il enregistrait secrètement les appels. Le géant de la recherche en ligne assure qu'il s'est attardé à ses préoccupations. Tout d'abord, Google affirme que le bot, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en fait, c'est un programme logiciel qui automatiquement peut faire des enregistrements, peut chercher de l'information, etc. Alors, bref, c'est un petit logiciel très, très autonome. Alors donc, tout d'abord, Google affirme que le bot s'identifiera comme un assistant automatisé à l'avance et annoncera qu'il enregistre les appels. Des téléphonistes humains se tiendront prêts en cas de problème. Quant à la tendance de Duplex à utiliser des « hum » et des « ah », Google note que cela a amélioré la capacité de l'assistant à prendre rendez-vous en interagissant plus naturellement avec les humains à l'autre bout du fil. Google prend grand soin d'assurer que Duplex se conforme à un ensemble de principes concernant l'intelligence artificielle qu'il a publié plus tôt ce mois-ci. Parmi ceux-ci, mettre au point uniquement des outils qui sont socialement bénéfiques et dont la conception même protège la vie privée. Nous n'essayons pas de leurrer les gens, a déclaré Scott Hoffman, le vice-président de l'ingénierie pour l'assistant de Google. Pour illustrer, il a fait entendre un enregistrement d'un prototype de duplex dans lequel une voix masculine informatisée, à l'accent britannique, essaie de faire une réservation pour 4 dans un restaurant. Le bot comble un silence gênant avec un « hello » désagréable. Le système n'était pas très bon, a admis M. Hoffman. Les gens raccrochaient. Ils se sentaient mal à l'aise avec la conversation et l'équipe a commencé à se demander « comment allons-nous rendre ça plus naturel ?» En chemin, à chaque étape, nous avons constaté que notre taux de réussite augmentait. Maintenant, Duplex peut prendre rendez-vous chez le coiffeur, faire des réservations au restaurant ou vérifier les heures d'ouverture à l'occasion des jours fériés. Les seules tâches pour lesquelles il est programmé, 4 fois sur 5, sans intervention humaine. Et il s'identifie de différentes manières. Dans un exemple d'appel, Duplex a lancé « Bonjour, je vous appelle pour faire une réservation. Je suis le service de réservation automatique de Google. » Donc, je vais enregistrer l'appel. Dans un autre, il a commencé ainsi. « Salut, je suis l'assistant de Google. J'appelle pour faire une réservation pour un client. Cet appel automatisé sera enregistré. » Les entreprises peuvent refuser d'accepter les appels de duplex en ligne, bien que cela signifie que duplex ne mettra pas à jour les informations sur Google Maps après avoir vérifié des données telles que les heures d'ouverture. Les personnes qui demandent à duplex de passer des appels peuvent limiter ce que le bot partage avec les entreprises, par exemple en gardant leur adresse de courriel privée. Lors d'un test de duplex, un journaliste de l'Associated Press a agi comme employé d'un restaurant et s'est opposé à ce que l'appel soit enregistré. Google n'a pas permis de partager l'enregistrement audio ou vidéo de la démo, mais voici une transcription de la conversation. Duplex. Salut, je voudrais faire une réservation. Je suis le service de réservation automatique de Google. Je vais donc enregistrer l'appel. Je peux réserver une table pour le samedi 30? Le restaurant. OK, mais si je veux pas que l'appel soit enregistré. Duplex. OK, on vous rappellera sur une ligne non enregistrée. Un téléphoniste a rappelé en quelques minutes, a terminé la réservation et a déclaré que le restaurant ne recevrait plus d'appels de duplex à l'avenir. John Havens, le directeur général de l'Initiative mondiale de l'IEEE sur l'éthique des systèmes autonomes intelligents, affirme qu'il est très encouragé par la transparence immédiate de duplex. Puisque les gens interagissent de plus en plus avec des systèmes d'intelligence artificielle, ils doivent avoir des choix clairs sur la façon dont ils sont disposés à le faire, a-t-il dit. Vous avez raccroché et un humain a rappelé. Si cela devient la norme, c'est génial. Le lancement initial de Duplex ne couvrira que les questions relatives aux congés et aux fins de semaine et sera limité à un groupe restreint de testeurs et d'entreprises. La possibilité de réserver au restaurant ou de prendre rendez-vous chez le coiffeur suivra plus tard cet été. Google s'intéresse principalement aux petites entreprises qui n'acceptent pas les réservations en ligne via des applications telles que OpenTable, que l'assistant de Google utilisera pour réserver au lieu de Duplex s'il est disponible. Pour l'instant, Google n'a pas l'intention de donner accès à la technologie aux développeurs d'applications tiers. Nick Fox, un vice-président de Google, a déclaré qu'il était trop tôt et que Google continue à découvrir comment son bot interagit avec les humains dans le monde réel. « Nous avons vu des entreprises raccrocher », a-t-il dit. « Est-ce que c'est agréable de lui parler? Est-ce étrange de lui parler? » C'est l'objectif de cette prochaine phase, de vraiment comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, de répéter et d'aller de l'avant. Alors voilà, c'était cet article de Google qui va lancer son concierge numérique dans la presse plus du 30 juin 2018 sous la plume de Ryan Nakashima.
Revoici en ondes. Voilà, Catherine Emmanuel, ça va être à vous, madame.
Merci. Alors, je parle de viande sauvage. C'est un article du Voir écrit par Marie Paris dans la section gastronomie. L'article s'appelle « Cuisine interdite ». Réapproprions-nous les savoir-faire et traditions qui nous définissent. Cette devise, c'est celle de Brave Jack, un petit groupe de passionnés de chasse créé par le chef Stéphane Moda et un ami. Sur le site web, photos et vidéos revisitent des recettes ancestrales ou expliquent les modes de cuisson en pleine nature. La chasse, et surtout la préparation des viandes qui s'ensuit, c'est la passion du chef de Champlain. Quand il n'est pas dans les cuisines haut de gamme du restaurant du Château Frontenac, il aime s'enfuir dans les forêts, fusil à l'épaule, pour tirer du gibier et le cuisiner. Ces animaux sauvages, il les a dans la peau, tatoués en grand sur les bras. Mais il regrette de ne pas pouvoir faire goûter ses viandes à ses clients. C'est cool de cuisiner le terroir, mais ici, on ne peut le faire qu'à moitié. C'est giboyeux, le Québec. Il y a quelque chose de très culturel dans les viandes sauvages. Les cuisiner, ça permettrait d'avoir une identité culinaire claire. On sert ce qui vient de chez nous, car on est fiers, martèle Stéphane Moda. Dans le Grand Nord, on mange du phoque, du caribou, etc. C'est ça l'expression du terroir. Il y a qu'à Terre-Neuve qu'on peut servir de la viande des bois dans les restaurants. Et après, c'est qui les Newfies? Au Champlain, le chef peut recevoir du caribou, de l'aponie, mais pas du labrador. Au Québec, la réglementation sur les produits alimentaires limite la consommation et la commercialisation des produits de la chasse depuis 1967. Les viandes utilisées par un restaurateur doivent provenir exclusivement d'un animal abattu dans un abattoir sous inspection. Toutefois, tout restaurant peut offrir de la viande de gibier issue d'animaux d'élevage, ayant été battue dans les abattoirs sous inspection, souligne Mélissa Lapointe du ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation du Québec. Ces produits distinctifs permettent aux visiteurs de vivre une expérience culinaire authentique et conforme aux standards de salubrité alimentaire. Mais pas besoin d'être un grand chef pour savoir qu'un animal d'élevage n'a pas le même goût que son pendant sauvage. Et note Stéphane Moda, si on a le droit d'élever au Québec du wapiti et du cerf rouge, élever de l'orignal, c'est interdit. Tous les chefs aimeraient pouvoir servir un morceau d'orignal. Ici, on peut acheter du loup marin parce que c'est considéré comme un poisson au niveau fédéral. Mais plein d'autres viandes sont interdites et j'aimerais comprendre pourquoi. Il y a des animaux qui sont fédéraux, d'autres qui sont provinciaux. C'est un vrai sac à nœuds. L'autre enjeu de la commercialisation des viandes sauvages, c'est la salubrité et la traçabilité des aliments. Lors d'un événement culinaire organisé dans un resto de Toronto autour de viande des bois, le chef du Champlain a dû demander une dérogation au gouvernement ontarien et chaque client a dû signer une décharge en cas de problème sanitaire. Les animaux abattus, éviscérés et découpés en quartiers à la chasse comportent des risques élevés de contamination par les micro-organismes responsables de toxi-infections alimentaires et représentent également des risques parasitologiques et chimiques, explique Mélissa Lapointe. Malgré les recommandations faites aux chasseurs, les diverses conditions, notamment environnementales et climatiques, appliquées en pleine nature et par des personnes d'expériences variées, contribuent à des risques de contamination des viandes. De plus, certaines maladies ou conditions de l'animal comportent des risques sanitaires. Un argument qui laisse Stéphane Moda dubitatif. Je serais très curieux d'aller à l'épicerie du coin, d'acheter un morceau de bœuf, de l'analyser et de le comparer à un morceau d'orignal que j'ai chassé. Je me demande lequel est le moins bon pour le consommateur. La commercialisation de viande de gibier sauvage dans les restaurants est aussi un enjeu du regard de la concurrence avec les éleveurs. Un faux problème contrecarre Stéphane Moda, pour qui les viandes sauvages sont un produit de niche que les éleveurs n'ont pas à craindre. Ça ne fera aucune concurrence aux producteurs de bœuf ou de porc, car on parle de quantités très limitées. Mais le lobby de l'orignal est beaucoup moins fort que celui du bœuf, ironise le chef de Champlain. Moi, je n'arrêterai pas pour autant d'acheter du bœuf. Je complémenterai juste mes menus avec d'autres viandes. Je veux ajouter des cordes à mon arc, bonifier l'expérience. Quand il part chasser un orignal, il peut revenir avec 650 livres de viande. Je n'ai aucun intérêt à garder tout ça pour moi. Un des problèmes entraînés par les lois, selon le chef, c'est le gaspillage. Beaucoup de chasseurs de l'extérieur viennent au Québec avec un permis de non-résident et ne peuvent donc pas ramener la viande chez eux. Marc Plourde, président de la Fédération des pourvoiries du Québec, indique, pour sa part, n'avoir jamais vu de sa vie des quartiers d'orignaux perdus. La viande est toujours récupérée. Il donne par ailleurs l'exemple du chasseur généreux, un programme de dons de viande de gibier destiné aux personnes dans le besoin. Ainsi, la viande issue de la chasse est traitée par un boucher et remise à des bandes alimentaires. Les pourvoiries n'ont en effet pas le droit d'apprêter de la viande dans leur établissement. Le règlement sur les aliments n'interdit pas d'un chasseur donne à un particulier la viande provenant d'un animal qu'il a abattu à la chasse, appuie Mélissa Lapointe. Il réglemente la vente d'alimentation et non les dons à des particuliers. Il est ainsi possible de remettre du gibier sauvage à une institution ou à un organisme philanthropique pour être servi gratuitement et exclusivement à ses bénéficiaires. Le gaspillage alimentaire peut ainsi être évité. En attendant, toujours pas de viande des bois au resto. Le président de la FPQ, chasseur depuis 43 ans, connaît bien la question. La commercialisation de ces viandes est associée à la notion de conservation, et le gibier est considéré comme une ressource collective qu'on ne peut donc pas commercialiser. Il suggère cependant de faire, lors des opérations de contrôle quand il y a des populations en surnombre, un abattage contrôlé dont bénéficieraient les restaurateurs. Ça permettrait de faire le pont entre une saine gestion de la faune et la découverte du terroir culinaire. Il faudra juste bien encadrer la pratique pour éviter le braconnage. Pourquoi pas faire des soupers au resto à des fins philanthropiques pour mettre en valeur du gibier? Des suggestions, Stéphane Mona n'en mange pas non plus. N'en manque, pardon, pas non plus. Quel lapsus. Il propose un distributeur officiel pour autoriser la revente de viande sauvage sous supervision du MAPAC. Selon lui, valoriser la viande chassée par les titulaires de permis non résidents permet aussi de limiter les pertes. Ça prendrait des données, des analyses et surtout une table ronde. Rien ne prendra forme tant que les institutions n'accepteront pas d'en parler ensemble. Pressons des lobbies de la viande ou réel problème de gestion des risques. En attendant, le dossier n'avance pas d'un pouce. C'est dommage car ce serait bon de faire connaître les gibiers au grand public, aux gens qui ne sont pas en contact avec la chasse, regrette le président de la FPQ. De son côté, le chef du Champlain continue, lors de ses temps libres, à s'adonner joyeusement à la chasse aux cerfs sauvages, aux caribous, à l'orignal, à la perdrix ou encore à l'oie blanche, dont il prélève tout pour cuisiner. « Mes enfants adorent ma recette du spaghetti au meatball à l'ours », confie-t-il. Il prépare d'ailleurs pour octobre un livre de recettes à base d'animaux sauvages du terroir québécois. Le chef y parle de sa cuisine interdite, donne des conseils pour apprêter le gibier. La viande des bois, on a toujours tendance à la faire trop cuire. Et célèbre les animaux sauvages et leur saveur. Quitte à manger moins de viande, mangeons-en de la meilleure. Et c'est un article de Marie Paris sur les viandes sauvages dans Le Voir.
À part qu'elle frappe à mort, j'ai passé un bel été. Des yeux des nénuphars, plein de prospects, plein de beauté. C'est tellement vrai que même des fois le soleil voulait même pas se coucher. La crise de pas au viande, la vie rêvée au yeah. Je pourrais jaser longtemps, mais je suis en train de mourir au bout de mon sang. Une autre histoire d'amour qui finit mal comme dans le journal. Ça a commencé le printemps passé en regardant les oiseaux s'apprécier. C'est beau la solitude, mais comme on dit, à deux c'est mieux. Justement, y en a une qui brûle dans le coin, une belle grande brune. Ses beaux yeux si mouillés que quand je la vois, je passe pour offrir de payer. Installée sur le petit lac à côté, avec ses petits célibataires. Moi, je m'en mêle pas, je saurais même pas quoi faire. À tous les matins, 8h moins quart, je passe là par hasard. Je la voyais de loin, besoin de rien, c'est pas grave, je repasserai demain. En attendant, moi, je tape la trille, et là, pour ça, c'est besoin d'aide. Un beau matin, elle me lâche un call, elle me dit t'arrêtes ça, une belle quenouille. Moi, je me suis dit, elle recharge un mort, dans sa voix, je sais qu'elle va. Saute dans l'eau, c'est prop, laisse plus rien qu'à me chaîne, à petite couille. De temps en temps, un petit frotte, cette patente-là, faut pas carouille. En route pour le bonheur, on sait jamais, peut-être même pour la grande chatouille. Dis pas, allez, vois-tu, je m'en vais par là. Dis trop, petit galop. Mon petit cœur léger comme un moche mollo. Y'a du fond dans ma cabane, dans ma canne, dans le shaft. Pis moi, ben, j'trippe comme une banane. Gros galop, j't'en en overflow. Le ciel est bleu, ma vue est flou. J'suis rendu. Tout à coup, j'entends des voix. On dirait bien qu'un pas tout ça. Qu'est-ce que j'fais? J'y vais pareil, j'sors du bois, qu'est-ce que j'vois? Un type, non, c'est pas vrai, ça 303, braqué dread dans ma face. Pis bang, bang, faut que j'm'efface, faut que j'débarrasse. Ma vie est de bord, me poigne des branches, pis j'm'accroche le panache. Nous pauvres cervidés, quand on aura des champs, on fera des défilés. Sur la troisième à Val d'Or, on posera sur nos capots des têtes coupées de chasseurs. Puis on laissera le cerveau chez laissez dans le congélateur.
Boc de Richard Desjardins.
Merci. Oui, merci beaucoup, Mathieu. Excellent choix musical. Merci. Hélène Bédard au micro. Alors voilà, c'est moi qui va continuer avec un très beau texte que j'ai trouvé dans la revue Virage, une de mes revues chouchou que j'avais un petit peu délaissé. J'y suis revenu. Et c'est écrit par, excusez-moi, juste un petit moment. Voyons. C'est un collectif, c'est pour ça que je ne trouve pas un seul nom, c'est qu'il y en a plusieurs noms. C'est un collectif de l'Université de Montréal, des étudiants de l'Université de Montréal. Et ça s'appelle « S'aimer sans vivre ensemble ». Justement, ce matin, on parlait de beaucoup de déménagements, puis il y avait des ruptures de couple, mais ça, c'est pas vraiment une rupture, c'est un choix. Je vais vous expliquer ce qu'il en est. Jadis, le chemin des couples était tracé. Si les fréquentations se passaient bien, on habitait ensuite sous le même toit, en union libre ou en tant que conjoint marié. Aujourd'hui, de plus en plus de couples d'âge mûr préfèrent vivre chacun chez soi, par choix et pour de bon. Au Canada, les données quantitatives les plus fiables et les plus récentes au sujet de ces non-cohabitants proviennent de l'enquête sociale générale sur la famille de 2011. Celle-ci a dénombré 1,9 million, enfin presque 2 millions, de Canadiens de 20 ans et plus vivant en couple chacun chez soi. Ainsi donc appelés non-cohabitants. Quantifier les couples de non-cohabitants est assez compliqué car cela renvoie à la conception qu'on se fait du couple et d'une certaine subjectivité. Les contours du couple non-cohabitant sont flous, explique le démographe Arnaud Régnier. L'enquête révèle deux faits importants qui caractérisent la tranche d'âge des 60 ans et plus. Le premier est que la proportion de personnes qui adoptent ce style de vie est en hausse. Entre 2001 et 2011, ça a monté de presque du double, c'est-à-dire de 1% à 2,3%. Le deuxième est que ce type de relation, qui représente souvent une étape transitoire pour les jeunes adultes, est devenu permanent chez la majorité des gens les plus âgés. En effet, 70% des personnes de 60 ans et plus dans cette situation avouent ne pas avoir l'intention de résider un jour avec leur conjoint. Les raisons. Pour certains, le lieu de travail ou le désir d'indépendance motive ce choix, alors que pour d'autres, l'idée de former une famille reconstituée représente un obstacle trop grand à cette étape de leur vie. Yvan, 58 ans, Daniel, 52 ans, sont en couple depuis plus de 3 ans et ils s'aiment à la folie. Ils étaient tous les deux divorcés au départ, ont décidé de conserver chacun leur maison, où ils vivent toujours avec leurs enfants respectifs. Pour Yvan, il s'agit du meilleur des deux mondes. C'est un luxe qu'on peut se payer à notre âge et qui permet de garder une relation saine, assure-t-il. Il y voit une façon d'éliminer la routine, conserver une certaine forme de liberté dont il a besoin. De plus, ses enfants sont beaucoup plus vieux que ceux de sa conjointe et il n'a surtout pas envie d'avoir l'impression de revenir 10 ans en arrière. Cette tendance de chacun chez soi apporte son lot d'avantages. Bon, manger ce que l'on veut quand on veut, ne pas entendre ronfler toutes les nuits, choisir ses émissions de télévision, ne pas imposer un nouveau partenaire de vie aux enfants et on pourrait en ajouter d'autres. Daniel, sa conjointe, constate aussi que c'est une excellente façon d'activer le désir. On a plus hâte de se voir. Chacune de ces rencontres devient un événement en soi. Parfois, j'ai un peu l'impression de vivre comme un couple d'étudiants et c'est parfait ainsi. Au début de la relation, il y a 35 ans, Benoît et Joanne ont habité ensemble pendant 2 ans. Par la suite, pour des raisons professionnelles, ils ont pris la décision de vivre, attention, à plus de 115 km de distance l'un de l'autre. Joanne a repris le bureau de notaire de son père à Saint-Paul de Montmigny, alors que Benoît, photographe de profession, a décidé de rester à Québec pour le bien de sa propre entreprise. Les deux travailleurs autonomes ont un horaire très chargé. Ils essaient toutefois de s'accorder du temps, au moins un soir de semaine et les week-ends. Les amoureux, propriétaires de 2 maisons et d'un chalet, aiment bien partager leurs moments ensemble entre leurs 3 domiciles, en plus de s'offrir plusieurs voyages par année. Pense-t-il que le secret d'un couple durable est de vivre chacun chez soi? Probablement que nous serions toujours en couple, même si l'on avait vécu tout ce temps ensemble, mais c'est certain que vivre séparément évite la monotonie. L'un des problèmes auxquels on aurait pu être confronté en vivant sous le même toit est que Benoît est amateur de musique et moi, amateur de silence, dit Joanne en riant. D'autres personnes décident de vivre une nouvelle relation amoureuse sur des toits différents, principalement pour des raisons familiales. C'est notamment le cas de Martine, récemment divorcée. Ses priorités, ce sont des adolescents. Elle souhaite leur donner un cadre de vie, leur laisser le plus possible leur repère. Ça ne m'apparaît pas raisonnable d'imposer une situation compliquée au futur beau-père. Veuf, Paul-Émile a choisi la non-cohabitation après avoir vécu 55 ans avec sa femme qui représentait tout pour lui et ses enfants, pardon. C'est lourd de se retrouver seul au quotidien, avoue-t-il. Il apprécie que sa nouvelle amoureuse et lui puissent vivre chacun dans leurs propres affaires tout en s'adonnant à des activités communes. De plus, cette situation ne choque pas ses enfants, ce qui est très important à ses yeux. Mais il n'y a pas que du bon à vivre séparément. Il devient, par exemple, plus difficile d'entreprendre des projets communs, ce qui est souvent considéré comme la base d'un couple solide. Aussi, le poids financier accru lié à ce style de vie peut s'avérer une source de stress et un élément de discorde. Toutefois, selon l'enquête sociale générale sur la famille de 2011, pour 37 % des couples de 60 ans et plus vivant chacun chez soi, le désir d'indépendance l'emporte sur les autres considérations, y compris l'argent. Un très beau texte de réflexion qui était paru dans la revue Virage en mai 2018 et c'était un collectif d'étudiants de l'Université de Montréal. Oui, alors Francine, vous avez quelque chose à nous dire avant la pause.
Oui, Thomas Laberge a constitué une liste pour l'actualité de 10 entreprises qui veulent conquérir l'espace. Alors donc, je vous en donne là, quelques-unes avant la pause. Alors d'abord, SpaceX, on a beaucoup parlé de l'entreprise d'Elon Musk lorsqu'elle a lancé une Tesla dans l'espace en février dernier. Mais l'excentrique entrepreneur a un objectif beaucoup plus ambitieux. Partir à la conquête de Mars, il espère envoyer des humains sur la planète rouge en 2024. Virgin Galactic, une autre entreprise. Vous cherchez une destination de vacances exotique? Moyennant 250 000 $ américains, l'entreprise de Richard Branson propose de passer quelques minutes en apesanteur dans l'espace à bord d'une navette spatiale. Alors, ça coûte cher, mais il y a 700 personnes qui ont déjà réservé leur place, dont Tom Hanks et Katy Perry. Alors, on pourra en parler d'autres tantôt.
Oui, absolument. Oui, fort intéressant. J'aimerais qu'on continue. Et voilà, c'est tout pour le moment, mais restez avec nous. Nous vous revenons après la pause. L'émission Les Voix de service continue.
Vous écoutez les voix de service. If you say this is pop, to be singing to a tune with a rhythm like this, would it be so unpopular for a singer like me to be bringing up the fact that we're all gonna go? Some people swear, they say they know where. For me, it's a mystery. But whichever way you see it, you have to admit it and live it and live it. We all kick the bucket in the end up my TV. It was numb in my brain to be thinking the same as a million other people, all feeling afraid of the same thing, but there's nothing to lose, 'cause we're all on a bike and we're cycling through, getting off on our injuries, but you gotta get back on it and live it to love it, and live and love life, 'cause we all keep the bucket in the end. This is not
Kick the bucket, Charlie Winston.
Nous voilà de retour en onde et voilà, Francine Forget va nous parler d'hypnose cette fois-ci.
L'étonnant pouvoir de l'hypnose médicale. Le dossier est de Catherine Dubé. C'est dans l'actualité de juillet 2018. Je vous en lis des extraits parce que c'est quand même assez long. Se faire hypnotiser pour subir un traitement dentaire, pour calmer une douleur chronique ou pour mieux dormir? C'est possible et c'est bien moins farfelu qu'on pense. En Europe, l'hypnose a même fait son entrée en salle de chirurgie. Dans le fauteuil du dentiste pour un traitement de canal urgent il y a 2 ans, le psychologue Jacques Desaunis continuait d'avoir mal malgré les nombreuses doses d'anesthésiques qu'on venait de lui injecter. Il s'est plongé en état d'auto-hypnose et n'a rien senti de toute la durée de l'intervention. La douleur n'est apparue que lorsqu'il est sorti de l'état hypnotique. Il le fallait bien pour régler la facture et reprendre la route jusque chez lui. Il a alors pris une bonne dose d'analgésique, exactement ce que l'on recommande aux patients quand ils dégèlent après une intervention dentaire. Jacques Desaunis a utilisé l'hypnose auprès de patients souffrant de fibromyalgie ou de douleurs chroniques pendant près de 25 ans à l'hôpital juif de réadaptation de Laval. Aujourd'hui, président de la Société québécoise d'hypnose, un regroupement d'environ 250 psychologues, dentistes et médecins formés à cette technique, il souhaite qu'elle gagne en popularité auprès des professionnels de la santé. C'est efficace pour la plupart des gens. Et ça ne coûte pas cher, souligne-t-il. Les bénéfices sont nombreux. Moins de douleurs et d'anxiété, un sommeil plus réparateur, des effets positifs sur l'humeur, etc. Le 21e Congrès mondial d'hypnose médicale et clinique, qui se tiendra pour la première fois à Montréal du 22 au 25 août, sera l'occasion d'entendre des sommités du domaine. On attend plus d'un millier de participants à ce congrès. L'hypnose clinique a peu à voir avec celle pratiquée sur scène. Loin de faire des pitreries, une personne sous hypnose, dans un contexte médical, est si calme qu'elle semble dormir, bien qu'elle soit éveillée et entende la voix du praticien. J'ai pu expérimenter cet état de conscience modifié, installé dans le fauteuil d'un cabinet de psychologue, guidé par la voix grave de Jacques Desaunis. Alors évidemment, c'est Catherine Dubé qui parle, et non pas moi-même. Il m'a invité à respirer très calmement en fixant un point sur le mur devant moi, à détendre tous mes muscles, puis il a compté à rebours en me demandant de fermer les yeux. Chaque fois que je dirai le mot « maintenant », vous plongerez dans un état de détente 2 fois plus profond. Maintenant, vous plongez dans un état de détente profond. Maintenant, au bout de quelques minutes, j'étais effectivement très détendue, peu consciente de mon corps immobile, mon esprit semblant flotter dans un non-lieu baigné de limbes mauves, chacun son truc, bien loin du stress de la vie quotidienne. C'est cet état de bien-être que cherchent à faire naître les thérapeutes et professionnels de la santé, un état où l'on perd la notion du temps, dans lequel l'esprit est complètement absorbé par l'expérience et réceptif aux suggestions. Les techniques d'imagerie cérébrale lèvent aujourd'hui une partie du voile sur cet état mystérieux. Sous hypnose, les ondes cérébrales associées à la vision et aux sensations s'activent comme si nous étions réellement les suggestions. Une sensation de sable chaud sous les pieds, à laquelle nous consacrons toute notre attention, devient plus convaincante pour le cerveau que la douleur ressentie ailleurs dans le corps. Au Québec, beaucoup de psychologues utilisent cette approche pour traiter l'anxiété, les dépendances, l'insomnie et plusieurs autres maux. Mais dans l'univers médical et paramédical, les professionnels qui y ont recours sont encore peu nombreux. Il y a bien quelques précurseurs, comme la docteure Nathalie Fizette, qui pratique depuis plus d'une décennie des accouchements sous hypnose, ou le psychologue Sylvain Néron, qui s'en sert pour améliorer le confort des patients lors d'interventions comme une biopsie du sein ou certains traitements de radiothérapie particulièrement douloureux. Au CHU Sainte-Justine, le psychologue Serge Sultan a formé 6 infirmières à l'utilisation de la communication hypnotique qu'elles emploient lors des multiples prises de sang et ponctions lombaires que subissent les petits patients cancéreux. Elles suggèrent par exemple à l'enfant que son bras est recouvert d'un gant magique, solide et protecteur, qui le protégera de toute douleur. Elle l'invite aussi à regarder son bras comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre pour se dissocier des sensations désagréables, explique Serge Sultan. Ces avancées n'ont cependant encore rien à voir avec l'engouement que connaît l'hypnose en Europe, où elle a fait son entrée dans des salles d'opération et des services d'urgence. Au centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc à Lyon, tout le personnel médical des urgences a suivi une formation en 2014. L'urgentologue, Daniel Agy, voit comme un outil supplémentaire à son arsenal médico-technique l'hypnose. Son premier patient, à en bénéficier, un homme de moins de 30 ans, se tordait de douleur en raison d'une pierre au rein, même après avoir reçu de la morphine. Il a suffi de quelques minutes à l'urgentologue pour le calmer et le soulager pendant qu'il s'imaginait au restaurant avec ses amis. La grande majorité de la population est assez aisément hypnotisable. Des tests standardisés évaluent qu'environ 15% des gens le sont très facilement et qu'une autre proportion de 15% le sont plus difficilement. Et dans un contexte médical, c'est surtout la motivation du patient et l'aptitude du praticien à personnaliser son approche qui assureront le succès de la technique. On ne peut en effet hypnotiser quelqu'un qui ne veut pas l'être. Plus la motivation de la personne est forte, mieux ça marche. Dès qu'on l'accueille, le patient, on le baigne dans un langage hypnotique en lui faisant des suggestions de bien-être liées au thème choisi. Au moment de commencer l'intervention, il ne faut en général que 5 minutes et hop, ils sont partis, dit la docteure Rollins. Outre les classiques souvenirs de voyage, une femme a déjà demandé de faire du planeur et un curé a célébré la messe. En dehors de certains problèmes psychiatriques, comme avoir déjà fait une psychose, il existe peu de contre-indications. Il est cependant plus prudent de faire appel à un professionnel membre d'un ordre, comme un psychologue, une infirmière ou un dentiste, qui a appris à utiliser ces techniques, plutôt qu'à un hypnothérapeute, l'utilisation de l'hypnose n'étant pas réglementée au Québec. Alors, des extraits de ce fascinant dossier, l'hypnose médicale, Catherine Dubé, l'actualité juillet 2018.
Catherine Emmanuel va poursuivre avec vous.
Oui, merci. Je vais lire une chronique du Voir d'Émilie Dubreuil. Elle a toujours cette chronique qui s'appelle « Sale temps pour sortir ». Son article ce mois-ci s'appelle « Les larges épaules du Gaspésien ». Il pleut délicatement sur mon toit dans le plateau Mont-Royal. J'écoute des morceaux d'Éric Satie. L'air est doux et le temps coule lentement, ce samedi consacré à prendre le temps de ne rien faire. Par la fenêtre, je regarde les lilas et j'ai le cœur au large. L'âme en Gaspésie sur un banc de bois inconfortable de l'église de Chloridome, posé devant l'immeuble gris-bleu du fleuve, où j'écoute des dizaines d'enfants de la côte chanter le répertoire « Difficile pour des enfants » de Pierre Flynn. C'était peut-être en 2004 ou en 2005. Depuis, j'ai entendu dans cette église cette même chorale, année après année, chanter des répertoires de Paul Piché, de Richard Séguin et de Daniel Boucher. Que l'on aime ou pas ces artistes, il y a une émotion très puissante qui se passe en dedans lorsqu'on entend des enfants chanter par cœur. Dans cette immense église de ce tout petit village, notre poésie, notre chanson, nos mots. L'incarnation d'une éducation culturelle hors norme dans ce Québec qui se célèbre si peu lui-même, car il s'aime si peu et est si peu fier de ce qu'il est d'ici. Ici fédéraliste ou souverainiste, gens de gauche ou de droite, scolarisé ou analphabète, riche ou pauvre, mais les mêmes mots, d'une même langue. C'est un tour de force que réussit depuis des décennies la petite école de la chanson du Festival en chanson de Petite-Vallée. Réunir des enfants de tous les villages de la péninsule et donner, l'espace d'un concert, aux gens qui sont là l'impression d'appartenir à un tout culturellement cohérent. Petite-Vallée est située juste après le village de Grande-Vallée, juste après la grande côte de rivière Madeleine, où se situe l'une des plus grandes passes au saumon au monde. Jusqu'en 1976, année de l'élection du premier gouvernement de René Lévesque, ce joyau de la pêche était un club privé appartenant à Domtar. Beaucoup de Gaspésiens du coin y travaillaient comme guides ou comme servantes. Ils étaient chez eux, mais n'y avaient pas accès. Après 200 km de Petite-Vallée, dans les terres, Mordecville, où ont travaillé tant d'hommes de la côte de la Haute-Gaspésie, jusqu'à la fermeture de la mine en 1999. Des hommes de lances pleureuses, de manches d'épée, de gros mornes, de rivières à Claude. Des noms de villages d'une grande beauté, à la toponymie déclinée d'une grande misère sociale et économique qui se déroule sur la carte de la 132, comme dans l'histoire, et ce, jusqu'à Lance à Vallot, Rivière au Renard, Lance au Griffon et Cap aux Eaux. Chloridorme a encore une poissonnerie, mais celle de Grande-Vallée a fermé il y a quelques années. Les quais naguère occupés par les vigneaux de morue sont délabrés, abandonnés depuis le début des années 90, quand le gouvernement de Brian Mulroney a imposé le moratoire sur la morue. La morue, la pêche, là encore une histoire de drame et de misère gaspésienne. Des morts tragiques dans ce fleuve bleu-gris et souvent fâché, sans parler de l'exploitation par la compagnie Robin, des pêcheurs pris au piège dans un système où leur labeur ne payait pas. Pendant deux siècles, les pêcheurs ont dû acheter de la nourriture, les agrès de pêche, le tissu pour vêtir les enfants et le peu qu'il fallait pour survivre jusqu'à l'automne à la compagnie britannique. La Robin, vendait à crédit et se faisait rembourser à la fin de la saison de pêche. Le prix de la morue n'était fixé qu'à la toute fin de la saison. Et ce, par l'entreprise. À ce moment-là seulement, Robin et les pêcheurs faisaient leur compte. Il ne restait, le plus souvent, rien du tout aux hommes qui avaient pris la mer. René Lévesque écrivait en 1947 « Ils étaient actifs et sans scrupules. Ils parvinrent aussi à garder, sous leur coupe, dans un véritable servage, une génération entière de pêcheurs, hommes simples, pour qui les chiffres étaient une magie noire, d'où ne sortait jamais rien que des dettes. À Grande-Vallée, il reste le moulin, une série qui existe depuis 1905, mais qui, selon les humeurs de l'industrie forestière, connaît depuis quelques années de bons jours comme des fermetures temporaires. Et on n'a pas parlé de la nationalisation du parc Forillon, grand traumatisme des années 70, où l'on a exproprié brutalement les gens qui y vivaient, n'a brûlé les maisons, ne comptait pas dans l'histoire. Bref, de ce côté-là de la Gaspésie, la vie a été dure, pleine de vent et de froid. Aujourd'hui, les motels abandonnés de Mont-Louis offrent une image saisissante de cette grande beauté essuyée, mais encore fière. Et, dans cette histoire difficile, le festival en chanson de Petite-Vallée a été comme un souffle de vie, une façon de faire monter du beau monde sur le bord de la grève, d'inventer un avenir à cette région. Mais le festival en chanson, c'est surtout l'histoire d'un homme, Alan Côté, de sa famille et de quelques amis et alliés qui portent sur leur large épaule de bien lourdes responsabilités. La pérennité de l'économie d'une région peut-elle reposer sur le courage et la détermination d'une seule famille et de ses amis? Dans la dernière année, le feu s'est acharné deux fois sur le festival. Il a détruit le théâtre et un an après, il a détruit l'auberge. Le feu, j'en sais quelque chose. C'est une expérience brutale, horrible, mais qui associe de lumineux qu'elle force à regarder vers la reconstitution, vers la réinventation, vers l'avenir. Or, que voulons-nous pour l'avenir de cette partie de la Gaspésie? Que voulons-nous collectivement pour l'avenir de tous ces villages au Québec qui se meurent lentement? Et c'est un article de Émilie Dupreuil.
Alors, ça a suscité beaucoup de commentaires. Là. C'est beau, c'est belle, c'est beau nom de cette très belle région de la Gaspésie. C'est de tout cela qu'on discutait. Je vous reviens, Hélène Bédard. Je vais vous reparler cette fois-ci de toujours de la revue Virage et un texte de Michel, la journaliste Michel Lemieux. Et je vais vous parler de Raymond Bouchard. Et lui, il va nous entretenir de sa grande zénitude. À 73 ans, Raymond Bouchard est l'incarnation même de la zénitude. Il y a longtemps, pour trouver une solution à son angoisse, il s'est tourné vers le zen. De cette pratique, il a conservé une étonnante capacité à saisir l'instant. Alors qu'il se permet maintenant de trier sur le volet les projets professionnels, il profite de la vie en donnant la plus entière présence au moment présent. Pour avoir beaucoup travaillé dans le passé, M. Bouchard aurait pu négocier difficilement le changement de rythme qui s'est imposé dans sa vie professionnelle. Or, il n'en est rien. Ces dernières années, il a tourné 4 longs métrages en Europe, dont Les Profs 2, un grand succès dans la francophonie. Je vis encore là-dessus, dit-il, pour aborder les questions pratico-pratiques. On parle financière. Mais j'achève. L'argent n'a jamais créé d'angoisse chez moi. Même lorsque j'étais jeune et que je n'en avais pas, je m'en fichais. J'essaie de prévoir l'argent dont j'ai besoin chaque année pour maintenir mon niveau de vie sans trop travailler. Ça ne m'angoisse pas, mais pour la première fois de ma vie, ben là, je suis obligé de calculer un peu. Heureusement, de beaux défis s'offrent à lui. Il y a quelques années, on lui a même proposé de jouer une femme au théâtre, et pas n'importe laquelle, Lady Bracknell, dans L'importance d'être constant de Oscar Wilde. C'était ma première femme en carrière, s'amuse-t-il. Et les gens ne me reconnaissaient pas. Je choisis donc mes projets. Comme je ne fais plus grand-chose, je me dis en pré-retraite. L'été prochain, nous reprendrons la pièce Représailles. C'est très drôle. Le public se bidonne, faire rire les gens. Y a-t-il quelque chose de plus merveilleux par les temps qui courent? Eh oui. L'acteur cultive l'art de ne rien faire avec un talent manifeste. J'ai décidé de prendre du temps, explique-t-il. Je ne fais plus que ce que j'ai vraiment envie. Mes filles ont toujours été ma priorité et elles le sont plus que jamais. Je ne m'inquiète pas dans la vie, sauf pour elles. Pour le reste, j'ai envie de vivre pleinement l'instant présent. Je ne m'ennuie jamais. Prendre mon café en mangeant mon orange le matin, c'est un paradis pour moi. Ces petits moments de vie sont si importants, il faut prendre le temps d'en jouir. Au fond de moi, je suis un paresseux. Je me considère comme un contemplatif. Le fait de n'avoir rien à faire me transporte au 7e ciel. J'aime me lever le matin sans savoir ce qui m'attend. Je ne suis pas un être angoissé, même si je l'ai été beaucoup dans le passé. Il adore la musique classique et en écoute tous les jours. Il y a toujours quelque chose de beau à voir, des opéras, des grands chefs, des grands orchestres. Je lis beaucoup, ça m'a toujours intéressé. Je joue à des jeux sur mon ordi pour faire pratiquer mes neurones. Ça, c'est mon rythme. Je l'ai mérité. J'ai l'impression de m'être botté le cul toute ma vie. Ceci étant dit, je n'ai jamais été un work alcoolique. Je pouvais m'arrêter quelques jours sans problème. Ce grand philosophe a d'abord souffert avant d'en arriver à trouver une solution à sa névrose d'angoisse. Si Raymond Bouchard a traversé des années particulièrement difficiles, il vit désormais en paix. J'étais terriblement angoissé, dit-il sans détour. Je connais ça, les thérapies. Il fallait que je trouve une manière de vivre qui ait du bon sens. Je me suis mis à chercher. Et finalement, c'est le zen Soto qui m'a sorti de cette situation. Un mois après avoir débuté ma pratique, je marchais sur la rue et je me suis senti heureux pendant quelques minutes. Quand tu vis en enfer, c'est intéressant de ressentir cette accalmie. Je me suis dit qu'il ne fallait pas que j'analyse ce qui venait de m'arriver, mais que je devais continuer à méditer. Dans le zen, il faut s'asseoir et ne rien faire. Ça ne sert à rien d'essayer de comprendre avec sa tête. Ce n'est pas intellectuel, il faut l'expérimenter. À la longue, quand on répète matin et soir, ça revient naturellement. Je suis complètement dans l'instant présent et cet espace s'agrandit de plus en plus. Raymond vit seul et ne s'en plaint pas. Vivre seul n'est pas égal à solitude, nuance-t-il. Je ne sais pas vivre autrement. Le silence m'interpelle énormément. Je peux passer des jours sans parler. Rester chez moi samedi soir et ça ne me dérange pas du tout. Malgré l'intensité de sa vie spirituelle, Raymond ne néglige pas son corps. Diabétique de type 1, il s'impose une discipline de vie nécessaire au contrôle de sa maladie. « Je suis diabétique depuis 50 ans, dit-il, c'est ma condition. Peu de gens ont passé 50 ans à l'insuline, même s'il y en a maintenant de plus en plus. J'ai des problèmes de santé qui sont stationnaires. Lorsque j'étais plus jeune, je suis parti en Europe avec ma poche de seringue. Ce n'était pas une situation idéale pour un diabétique. Il n'y avait pas de glucomètre, le contrôle était plus difficile à exercer. Je vivais comme un nomade, je dormais dans un camion. Si on ne fait pas attention, on paye pour. Et c'est ce qui m'est arrivé. Il y a 20 ans, j'ai eu des pontages. Maintenant, je fais attention. J'ai 73 ans. J'ai ma pompe à insuline, je fais régulièrement mes tests, j'aime la vie et je veux vivre le plus longtemps possible. Alors, un très beau texte sur M. Raymond Bouchard de Michel Lemieux, paru dans la revue Virage. Voilà en onde. Alors, je voulais vous lire un court texte. En fait, c'est un texte anonyme cette fois-ci. Je ne peux pas citer la source, mais je l'ai reçu. Ça provient d'une infirmière qui ne veut pas être nommée. Et je vais vous lire son texte. C'est très, très beau. Ça s'intitule « Un rendez-vous important ». C'était une matinée chargée, environ 8h30, quand un homme d'un certain âge, dans les 80 ans, est arrivé pour faire enlever les pointutures de son pouce. Il s'est dit pressé car il avait rendez-vous à 9h. J'ai pris ses coordonnées, j'ai demandé de s'asseoir, mais sachant que ça prendrait plus d'une heure, avant que quelqu'un puisse s'occuper de lui. Je le voyais regarder sa montre et j'ai décidé, puisque je n'étais pas occupé avec un autre patient, de regarder sa blessure. En l'examinant, j'ai vu que ça cicatrisait bien. Alors, j'ai parlé à un docteur, j'ai pris le nécessaire pour enlever ses points de suture et soulager sa blessure. Pendant que je m'occupais de sa blessure, je lui demande s'il avait rendez-vous avec un autre médecin ce matin, puisqu'il semblait pressé. L'homme me dit « Non ». Il devait aller dans une maison de retraite pour déjeuner avec sa femme. Je me suis donc informé de la santé de sa femme. Il me dit qu'elle était là depuis un certain temps et qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Comme nous parlions, je lui ai demandé si elle serait contrariée parce qu'il serait en retard. Il a répondu qu'elle ne savait plus qui elle était et qu'elle ne le reconnaissait plus depuis 5 années. Hors surprise, je lui ai demandé « Et vous y allez encore tous les matins, même si elle sait qu'elle ne sait plus qui vous êtes? » Il souriait et en tapotant ma main, il dit « Elle ne me reconnaît pas, mais moi, je sais encore qui elle est. » J'ai dû retenir mes larmes quand il est parti parce que j'avais la chair de poule et je pensais que c'était le genre d'amour que je voulais dans ma vie. L'amour qui n'est ni physique ni romantique, l'amour et l'acceptation de tout ce qui est, a été, sera et ne sera plus. Je trouvais important d'envoyer ce message et de le partager avec vous. Les gens les plus heureux n'ont pas nécessairement le meilleur de tout. Ils s'organisent du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. La vie n'est pas d'échapper à la tempête, mais bien de danser sous la pluie. Francine Forget va nous entretenir.
Ben, en fait, je vais continuer la liste des entreprises qui veulent conquérir l'espace. Une liste publiée dans l'actualité de juillet 2018. Elle a été constituée par Thomas Laberge. Tantôt, je vous ai parlé de Virgin Galactic qui, pour 250 000 $ offre une expérience en apesanteur. Le premier vol, et j'ai oublié de le dire, le premier vol est prévu d'ici la fin de l'année. Alors donc, c'est d'ici la fin de 2018. Facebook, alors le populaire réseau social, veut fournir un accès Internet à haut débit partout sur la planète en envoyant des satellites dans l'espace. Ce projet est longtemps resté secret, mais une offre d'emploi, écoutez bien le titre du poste, chef de produits extraterrestres, a mis la puce à l'oreille des journalistes. Planetary Resources, c'est une entreprise qui veut rendre les voyages dans l'espace plus viables. Elle veut construire des stations-service spatiales sur des astéroïdes. Alors, l'eau que ceux-ci renferment pourrait être transformée en carburant. Il serait ainsi possible pour les navettes de faire le plein durant le voyage et ainsi de faire des voyages plus longs. Alors, on pourra peut-être continuer la semaine prochaine. C'est un peu, hein, c'est un peu particulier.
Tout à fait. Merci beaucoup, Francine.
Et pourtant, ça semble être là, là. Hein?
Mais c'est là. Alors, c'est ce qui est là maintenant, c'est qu'on doit vous quitter. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Francine. Merci beaucoup, Mathieu.
Merci, Ben.
Alors, on se donne rendez-vous vendredi prochain. Je n'y serai pas, mais mes excellentes collaboratrices y seront. Au revoir. Portez-vous bien.